Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle à l'écoute de Métropolez-vous. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission, une émission dont nous avons déjà consacré par le passé quelques numéros à la solidarité et à l'économie sociale et solidaire sur le territoire métropolitain. Et dans ce secteur de la solidarité au sens large, on sait moins qu'il existe aussi une dimension internationale faisant l'objet d'une délégation à la mairie de Toulouse et de projets à Toulouse Métropole. On pourrait penser pourtant que la coopération et la solidarité internationale sont plus l'affaire des États entre eux, au minimum des régions entre elles. Eh bien non, il y a également des relations au niveau des villes et des métropoles, et pas seulement par le biais du jumelage. Pour en savoir plus et pour faire découvrir aux auditeurs de Métropolez-vous toutes les facettes de ce sujet mal connu, nous avons souhaité lui dédier tout ce numéro que nous avons intitulé « Toulouse Métropole et la coopération et la solidarité internationale ». Il y a à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole une élue qui est en charge, entre autres, de la coopération et de la solidarité internationale. Cette élue, c'est Nicole Miquel-Belot, conseillère municipale déléguée chargée de mission à la mairie de Toulouse et conseillère métropolitaine. Elle nous fait l'amabilité d'être l'invitée de cette émission, ce dont je la remercie. Bienvenue à vous aussi, madame. Pour préciser les choses, afin qu'on sache bien de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que peut vouloir dire coopération et solidarité internationale pour une ville et une métropole comme Toulouse?
Bonjour, enchantée d'être avec vous sur ce sujet qui est très important. La coopération décentralisée ou coopération internationale, c'est en fait quelque chose que tout le monde connaît puisque c'est la suite des jumelages. Les jumelages, après la guerre, ont été en grand développement dans les collectivités, tout simplement pour essayer de développer l'amitié entre les peuples et d'aider par rapport à la fin de la guerre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quasiment plus de collectivités qui font des jumelages, mais on fait de la coopération décentralisée. Donc vous voyez, c'est quelque chose que vous connaissez.
Et la solidarité.
Alors la solidarité, c'est beaucoup plus large. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir, par exemple sur Toulouse, une association franco-colombienne, par exemple, pourquoi pas. Et à partir de là, ils travaillent sur leur pays et nous, on va les aider au niveau de la solidarité pour voir s'il y a quelque chose à faire.
À titre personnel, est-ce qu'il y a une expérience ou un parcours qui vous destinait à prendre en charge ces délégations à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole? Parce qu'il y a des valeurs humaine derrière tout ça.
Alors, vous avez parlé de l'économie sociale et solidaire tout à l'heure. Je suis en effet en charge de l'économie sociale et solidaire tout simplement parce que j'ai monté une entreprise d'insertion par l'économie qui a 20 ans maintenant, qui s'appelle Envie. Je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui la connaissent et qui vont acheter leur électroménager à Envie. D'autre part, j'étais aussi toujours intéressée par l'international, que ça soit par mes études ou que ça soit quand je suis devenue professeur à la Toulouse Business School ici. J'ai enseigné à Marrakech, mais je voyage aussi à titre personnel dans le monde entier. Et c'est vrai que je vais au contact de la population pour justement voir un petit peu quelles sont les problématiques qu'il y a dans tous ces pays que je visite et qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont leurs besoins.
Merci beaucoup Nicole Miquel-Belot. Nous reviendrons dans quelques minutes à la coopération et la solidarité internationale à Toulouse. Dans les médias, nous allons redescendre à l'échelon local en nous plongeant dans l'actualité métropolitaine avec le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Métropolez-vous, l'actu. Et l'actualité, c'est d'abord une information qui concerne les demandeurs d'emploi. Job sur son 31 fait son retour dans la métropole toulousaine.
Oui, comme chaque année depuis 3 ans, la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole organise avec l'association Reflet 31 l'opération Job sur son 31. Une opération qui permet de collecter des vêtements au bénéfice de demandeurs d'emploi qui entrent sur le marché du travail, passent un entretien de recrutement ou débutent dans l'entreprise. Cette collecte solidaire permet de récupérer des vêtements adaptés au milieu professionnel. Les vêtements collectés, des vestes, des jupes, des chemises ou pantalons, sont gérés par le vestiaire solidaire Job sur son 31, créé en novembre 2014 par l'association Reflet 31. Les vêtements adaptés au milieu professionnel sont fournis à prix modique aux demandeurs d'emploi et aux jeunes actifs lorsqu'ils en ont besoin dans leur démarche de recrutement et d'insertion professionnelle. Des jeunes volontaires de l'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, assurent la manutention, la collecte et le transport des vêtements recueillis. La collecte a lieu jusqu'à la fin novembre. En 2017, cette collecte solidaire a permis de récupérer près de 5500 vêtements et 133 demandeurs d'emploi ont pu en bénéficier avec un taux de satisfaction dépassant les 94%.
Puisqu'on parle de l'emploi dans la métropole, on sait que sa situation est beaucoup liée à la conjoncture économique. Toulouse Métropole cherche encore et toujours à développer son économie.
Et pour cela, elle soutient la consolidation et la diversification du secteur industriel et technologique, notamment autour des trois pôles de compétitivité, Aérospace Vallée, Cancer Biosanté et Agrimip Innovation, et de la fédération de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche dans le cadre du pôle de recherche d'enseignement supérieur de l'Université de Toulouse. Toulouse Métropole accompagne aussi la création d'activités et d'emplois par l'hébergement de nouvelles entreprises dans ses pépinières et par l'appui aux structures fédératives et d'animation pour le développement de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et des services à la population. L'arrivée de l'entreprise Hyperloop Titi à Francazal en est un bon exemple. L'entreprise planche sur le train du futur, celui qui pourrait relier Toulouse à Montpellier en 25 minutes en propulsant à plus de 1200 km/h des capsules dans des tubes aériens. Enfin, Toulouse Métropole s'inscrit dans les grands réseaux européens et internationaux pour renforcer son attractivité et son rayonnement métropolitain.
Et pour finir, une autre information dans le domaine scientifique, mais à destination des plus jeunes d'entre nous, celle-ci, le Quai des Savoirs inaugure le nouveau Quai des Petits.
Oui, un lieu de découverte et de rencontres culturelles, scientifiques et artistiques. Le Quai des Savoirs propose à tous les publics de mieux comprendre le présent et de construire le futur. Et les plus jeunes, dès 2 ans, ne sont pas en reste avec des activités dédiées au Quai des Petits. C'est à cette ambition que répond ce nouvel espace entièrement en revue avec des experts de la petite enfance. Objectif, accompagner l'éveil et stimuler la curiosité des jeunes enfants, encourager les échanges avec les parents et les accompagnateurs dans un environnement bien sûr ludique et créatif. Après 2 ans de conception et de travaux, le nouveau Quai des Petits ouvre enfin ses portes aux enfants de 2 à 7 ans.
Nicole Miquel-Belot, comme je sais que vous êtes de ces élus qui s'intéressent à tous les sujets métropolitains et donc à tout ce qui les concerne dans l'actualité, vous avez peut-être des précisions, des réactions à apporter à certaines des informations de ce flash.
Alors Jobsur 31 fait un travail extraordinaire en ce moment. Il faut absolument en effet que les demandeurs d'emploi, quand ils vont passer un entretien, aient les codes vestimentaires. Donc en général, ils n'ont pas tous ces costumes, etc. Donc il est important qu'ils puissent en récupérer un maximum pour pouvoir justement, quand ils arrivent, avoir les codes que l'entreprise attend. On a un endroit de collecte à Toulouse, à la mairie. Donc il suffit d'arriver à la mairie. Vous pouvez donner vos costumes, vos vêtements, etc. Et le maire lui-même, tous les ans, donne des costumes qui lui appartiennent pour ses demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais préciser. Sur développer son économie, c'est fondamental pour Toulouse. On ne peut pas rester uniquement sur l'aéronautique.
Je vais y arriver. Et le spatial.
Et le spatial. Il faut en effet qu'on arrive à avoir d'autres secteurs en développement. Et on est, Toulouse, très en avance sur tout ce qui est innovation. Que ça soit Hyperloop, que ça soit la voiture du futur, que ça soit la voiture volante, que ça soit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et l'économie sociale et solidaire en fait partie, j'insiste, parce qu'on est dans le développement économique et non pas uniquement sur le côté social. C'est une économie comme une autre. Et enfin, le Quai des Savoirs, ça c'est absolument génial. J'ai des souvenirs quand j'étais petite d'avoir été à Paris au Musée de la Découverte et justement d'avoir découvert ce qu'était la science. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui la science c'est très important et il faut que les jeunes filles aillent dans les métiers qui sont liés à la science. C'est une façon de les amener justement à découvrir la science.
Eh bien, merci d'avoir apporté tous ces compléments d'informations très précis. Nous allons maintenant poursuivre notre échange en revenant au sujet de cette émission, Toulouse Métropole et la coopération et la solidarité internationale.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec notre invité Nicole Miquel-Belot, conseillère municipale déléguée chargée de mission à la mairie de Toulouse, conseillère métropolitaine. Pour reprendre notre discussion, je pense qu'il faudrait qu'on détaille tout ce qu'il y a derrière ces notions de coopération et de solidarité internationale. Quels domaines, quelles actions cela concerne-t-il ? Il y en a beaucoup.
Alors il y en a beaucoup puisque on essaye de se lier principalement aux besoins de la collectivité dans laquelle ou avec laquelle on veut travailler. Alors très souvent on a commencé par tout ce qui était échange de jeunes, c'est la première chose qu'on a fait, que ce soit dans un jumelage d'ailleurs ou dans une coopération. Aujourd'hui on peut le faire au niveau de la santé, on peut le faire au niveau de l'université, on peut le faire au niveau économique, on peut le faire au niveau humain, on peut le faire au niveau social et
culturel
bien entendu. Donc ça touche vraiment tous les domaines d'activité, tout est possible, ça dépend juste de la collectivité avec laquelle on veut échanger et de voir un petit peu leurs besoins. J'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas arriver avec des idées préconçues. On part des besoins de la collectivité. C'est ça qui est important. Et ça, ça se fait en discutant et avec une chose qui est très importante quand on travaille justement ou avec l'Asie ou avec l'Afrique ou avec l'Amérique latine, en co-construction. J'y tiens, c'est ça qui permet de réussir.
Ça se concrétise comment en fait? Il y a la signature d'accords, il y a des partenariats, il y a des projets communs?
Alors il y a des signatures quand vous êtes en coopération, puisque c'est la suite du jumelage. On peut peut-être citer les jumelages qu'on a à Toulouse,
sûr,
les coopérations.
Sûr.
Donc le jumelage qui était donc avant, on va dire jusque dans les années 85, on a eu Tel Aviv, Atlanta, Kiev, Bologne, Chongqing et Elche. Donc vous voyez des jumelages qui sont nord-sud, hein, puisqu'il y en a au nord, il y en a au sud. Au niveau coopération, c'est la même chose. J'ai pris un petit peu par ordre. On a N'Djamena, Hanoï, Saragosse, Düsseldorf, Saint-Louis, Ramallah, Barcelone, Oslo, Hambourg et enfin, très nouveau aussi, Casablanca.
Il y a un peu tous les continents représentés.
Il y a un petit
là,
peu hein. tous les continents. On travaille autant sur le nord que sur le sud. Il ne faut pas confondre non plus dans les accords. On n'est pas uniquement sur de la solidarité. On fait aussi des accords économiques, bien entendu.
Qui est à l'origine de ces accords? Comment ça se passe? Qui décide? Ça se passe entre élus ou comment se fait la mise en relation?
Alors, quand vous êtes sur des coopérations décentralisées où il y a des signatures d'accords, c'est une volonté purement politique. C'est le rapprochement vraiment qui se fait entre deux villes ou entre deux collectivités parce qu'il y a des similitudes, par exemple dans l'aérien, ou parce qu'il y a des liens d'amitié, ou parce qu'il y a des liens historiques. Vous prenez par exemple la coopération avec Saint-Louis du Sénégal. On a une très belle histoire. Il y a 91 ans, Saint-Exupéry posait pour la première fois son latécoère à Saint-Louis du Sénégal. Donc vous imaginez bien que quand vous avez la chance d'avoir une si belle histoire, on continue à être en relation avec eux et à travailler.
Ces accords de coopération, ça passe par quoi? Il y a de l'échange de compétences, de savoir-faire, de bonnes pratiques,
oui.
Où il y a vraiment des projets très concrets, où on construit quelque chose sur place?
Les deux sont possibles, bien entendu. Mais c'est vrai qu'au départ, ce qu'on cherche, c'est vraiment cet échange de compétences, de savoir-faire, de bonnes pratiques. Et j'insiste sur le mot échange. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans un sens.
Oui, c'est, pas
oui, c'est vrai,
c'est
on va apporter beaucoup de choses à la ville ou au pays dans lequel on va aller, mais eux nous apportent aussi énormément. Et ça, c'est ce qui est important. On oublie toujours de voir qu'il y a toujours quelque chose qu'on récupère de ces échanges qu'on a avec ces villes ou ces collectivités. Je vais prendre un exemple qui est un médecin qui est revenu de Saint-Louis du Sénégal, où il est allé à l'hôpital de Saint-Louis. Vous imaginez bien qu'il ne travaille pas de la même façon, parce que bien sûr, ils n'ont pas toutes ces machines hyper sophistiquées voilà. qu'on a ici. Et quand il est revenu, la première chose qu'il m'a dit, c'est extraordinaire parce qu'en fait, je suis revenue sur la médecine traditionnelle, celle qu'on m'a appris au départ. Et finalement, je m'en sers aujourd'hui quand je suis avec des patients. Puis le rapport aux patients est tout à fait différent aussi. Là aussi, ça m'a remis par rapport à mon métier de base. La remise en question, etc. Moi, quand j'étais prof à Marrakech, vous imaginez bien, j'étais prof de marketing, je ne peux pas enseigner de la même façon par rapport à ce que j'enseigne ici à mes étudiantes de la Toulouse Business School et ce que je peux enseigner à Marrakech. Je suis obligée de me remettre totalement au niveau de ce qui se passe à Marrakech, au Maroc. Le marketing, il y a 10 ans, n'était pas connu. Et à partir de là, mes cours, je les fais évoluer par rapport à ce que j'apprends sur le terrain. Donc c'est vraiment du donnant-donnant. On ne va pas là-bas uniquement pour faire plaisir. On va là-bas parce qu'on sait aussi qu'on va pouvoir s'enrichir nous-mêmes par rapport à nos métiers ou par rapport à nous-mêmes. Il y a des valeurs qui sont vraiment fondamentales.
Vous pouvez donner d'autres exemples d'accords de coopération avec certaines villes qui sont pour vous exemplaires ou emblématiques?
Alors moi, je développe souvent l'exemple de Saint-Louis. Je suis désolée, je vais revenir
oui,
par rapport
mais...
à Saint-Louis. Tout simplement parce que je suis en charge de la solidarité depuis 3 ans et demi maintenant. Et on a réussi à faire quelque chose qui est de prendre l'ensemble du problème et non pas uniquement une petite facette du kaléidoscope. Donc la première chose qu'on est arrivé et qu'on a discuté avec Saint-Louis et la mairie, c'était de voir de quoi ils avaient besoin en priorité. Ils avaient un besoin d'assainissement qui était quand même assez fondamental. Je suis allée dans des écoles. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça quand on est ici à Toulouse, où vous voyez les enfants qui jouent, puis il y a une mare d'eau. Donc vous dites, tiens, d'où vient cette mare d'eau? Parce que vous êtes curieux, donc vous demandez. C'est tout simplement le rejet des latrines. Donc les enfants jouent dedans. Donc vous imaginez bien entendu toutes les maladies,
oui,
l'absence
bien.
En termes de scolarité, etc. Donc la première chose dont on a parlé avec eux, c'était justement tout ce qui était assainissement. Il s'avère qu'il y a en France une loi qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle la loi Houdin-Santini. La loi Houdin-Santini, c'est un accord qu'on va passer, puisqu'il y a une signature, qui fait qu'on va donner entre 0 et 1% de notre facture eau avec le concessionnaire, parce que ça concerne le concessionnaire. Aujourd'hui, c'est Veolia qui est notre concessionnaire, ça a été signé avec Veolia, qu'on met dans un fonds à part qui ne peut être utilisé que pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des pays qui sont fléchés par cette loi Houdin-Santini. Donc vous avez les moyens de pouvoir aider des pays sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. J'étais hier à Casablanca justement sur le lancement d'une loi Oudin là-bas aussi avec la mairie de Bordeaux, l'Association internationale des maires de France et le Adour-Garonne. Hein. Et ensemble, on a travaillé sur l'assainissement là aussi parce qu'en effet, c'est fondamental. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, ça ne coûte pas un sou. Je précise, ça ne coûte pas un
c'est
sou aux citoyens.
Voilà, ça hein, c'est pas ça. À la collectivité, aux citoyens en tout cas de la collectivité.
Voilà, il
n'y
a pas d'augmentation du prix de l'eau pour, etc. C'est pris sur, on va dire, la marge de Veolia. Mais c'est ça qui est intéressant. Et on ne peut l'utiliser que pour ça. Donc c'est une manne qui est à disposition. Imaginez que toutes les collectivités en France signent cette convention. Parce que ce n'est pas obligatoire. C'est une loi, mais chacun est libre de l'apprécier ou non. Je pense qu'on aurait réglé un gros problème, on disait ça avec le maire adjoint de Bordeaux, on aurait réglé un gros problème d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays en voie de développement. Donc là, on a commencé par ça. Mais ça, c'est un petit bout du kaléidoscope. Après, on est allé voir le rectorat. Et on a dit, quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés ? Alors bien entendu, ils arrivent avec une liste à la Prévert. Là-dedans, c'est quelles sont vos priorisations ? Et moi, j'ai trouvé que le recteur de Saint-Louis était exceptionnellement intelligent parce que la première chose qu'il m'a dit, c'est nous, on forme des jeunes, mais il n'y a pas d'emploi d'ailleurs. Donc aidez-nous
par différents emplois.
Voilà, à faire en sorte qu'on puisse créer des emplois sur place. Donc ils m'ont demandé de voir tout ce qui était lié à l'agrofilière, l'agroforestation, l'agrobusiness, parce que c'est vrai que c'est ça dans lequel ils peuvent trouver des emplois. Donc nous, notre rôle, c'est de faire du go-between, hein, c'est-à-dire on va mettre en relation. Après, c'est pas moi qui suis, c'est pas la mairie qui est en lien. Et donc on a l'ANSAT et Purpan, qui sont parties prenantes maintenant, qui sont déjà parties sur place et qui sont en train d'établir des modules de formation pour justement faire en sorte que les jeunes puissent avoir cette formation et créer leur emploi derrière. Et puis ils m'ont demandé de les aider aussi sur un incubateur. Donc là, je les ai mis en rapport avec la Toulouse Business School, puisqu'il y a un incubateur à la TBS aussi. Et c'est eux qui vont aller sur place. Et il faut aller sur place, hein, parce qu'on ne peut pas calquer ce qu'on fait ici sur ce qui se passe en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. Donc ça, c'était le deuxième point. Puis après, on se dit, il y a un hôpital qui a l'air super développé, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet hôpital ? Donc là, leurs besoins, c'est pareil, hein, on a listé la priorisation, c'était la stérilisation. Ils ont visiblement des problèmes par rapport à la formation en stérilisation. Donc on a des infirmières d'ici, sur l'Ocropole, qui sont parties pour faire un audit hein, de la situation et qui sont reparties une deuxième fois, toujours pareil, pour aller regarder s'il y avait des évolutions, etc., etc. On travaille au niveau culturel aussi, bien entendu. Donc là, on envoie un photographe, avec une exposition d'ailleurs sur l'eau, qui part là-bas, qui va faire des masterclass. Et en échange, on va recevoir un photographe sénégalais de Saint-Louis qui va venir faire une exposition aussi et aussi faire un masterclass. On va certainement envoyer des jeunes aussi qui sont sur Toulouse, qui sont des musiciens sur Toulouse, assez connus, qui sont en plein développement à l'heure actuelle, mais qui ont cette fibre sociale qui est de dire, en même temps que je fais des concerts, moi ce que je fais, c'est que j'aide des enfants à apprendre des instruments de musique, à avoir cette évolution, cet éveil sur la musique. Ils le font ici à Toulouse, mais ils ont envie de le faire aussi ailleurs. Quand je les ai rencontrés, j'aurais dit « Ok, why not Saint-Louis ?» Et ils sont tout à fait partants. On est en train de regarder là aussi comment envoyer ces jeunes-là, qui sont donc des jeunes Toulousains, sur place pour avoir là encore une expérience différente. Ils vont revenir en étant nourris de ce qu'ils auront eu comme échange et certainement leur musique va évoluer aussi. On envoie des jeunes là-bas qui vont aller faire leur stage. Comme on va recevoir des jeunes de Saint-Louis qui vont venir faire aussi leur stage ici. Donc vous voyez, c'est riche, c'est absolument incroyable tout ce qu'on peut faire.
Et c'est dans des domaines très très variés.
Voilà.
Ça m'amène justement à préciser quels sont les acteurs métropolitains qui sont amenés à s'impliquer dans ces projets de coopération et de solidarité internationale. Vous en avez cité quelques-uns. L'Oncopole, l'agence de l'eau Adour-Garonne, éventuellement le conservatoire lorsqu'il s'agit de musiciens.
Oui.
Je suppose qu'il y a des associations et d'autres entreprises qui s'impliquent là-dedans. Vous chargez de faire la mise en relation tout simplement.
Voilà. Oui. Nous, on essaye de cerner les besoins. Et après, de voir comment on peut les aider. Alors, par exemple, bien sûr, hein, l'université, l'Oncopole, les entreprises, les associations, tout ce qui est sur Toulouse qui peut avoir un intérêt à aller sur un territoire, bien sûr, on est en liaison avec eux et on essaye de faire ce go-between. Mais le go-between, il est important. Il faut qu'on arrive à développer ces liens qui se font après sans nous. Hein. Nous, on va juste après, quand je repars à Saint-Louis, en général, je vais voir le recteur, je vais voir le directeur de l'hôpital, on essaye de regarder ensemble. Est-ce que tout ça, ça a apporté quelque chose ? Si ça apporte rien, c'est pas la peine, hein, soyons francs. On fait pas ça pour le plaisir de dire qu'on est allé à Ramallah, on est allé à Saint-Louis, on est allé à Saragosse, etc. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ? Et ça, on fait un audit. Souvent, les citoyens me disent, ouais, d'accord, tu mets de l'argent là-bas, mais finalement, tu sais jamais à quoi ça a servi. Si, on
c'est
va sur place.
C'est suivi de très près.
Voilà, on est sur place. Là, je vais faire une deuxième mission à Saint-Louis. On va sur le terrain. Je vais dans les quartiers. On rencontre alors je sais pas comment ça s'appelle là-bas, je me souviens pas, les présidents, les maires de quartier, on va dire, l'équivalent de nos maires de quartier, les présidents d'associations, les présidents des femmes, parce que vous savez qu'en Afrique, ce sont les femmes qui décident tout. Et puis on va dans les habitations. Moi, la dernière fois, la première fois où je suis allée à Saint-Louis, on avait un plan qui nous avait été proposé par la mairie. Et en nous promenant dans les rues, en parlant avec la population, même s'ils parlent le Wolof et malheureusement plus beaucoup le français, mais on arrive quand même à échanger, à rentrer chez eux, à regarder. Je vous garantis que la pauvreté, elle est énorme. Et quand on peut les aider avec l'accès à l'eau ou à l'assainissement, c'est vraiment fondamental. Et on s'est aperçu qu'il y avait une école. Et on a posé la question en disant, cette école, bien entendu, est raccordée. Et la mairie nous dit non, elle n'est pas raccordée. Donc on a fait évoluer complètement le projet en disant, nous, c'est fondamental. Nous, Toulouse, on veut être présent dans l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène des enfants. Donc tout ce qui est école, on veut le raccordement prioritaire. Donc la deuxième phase, donc on a fait ce raccordement, il a été rajouté dans le plan de la première phase. Et dans la deuxième phase, que je vais aller vérifier en janvier, on a 4 écoles qui vont être branchées sur les secteurs. Ce qui veut dire que les enfants vont avoir enfin des latrines correctes, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. On peut dire que sans son, mais sans non pas. Il n'y a pas l'accès à l'eau pour leur apprendre les gestes d'hygiène.
L'hygiène alimentaire.
Voilà, élémentaire. Et grâce à tout ça, on a fait une inauguration dans la première école. Et j'ai discuté avec les enfants. Et c'était vraiment extraordinaire de voir justement l'évolution. Et les petites filles qui étaient radieuses parce qu'enfin, elles allaient pouvoir avoir quelque chose de correct.
Oui, alors je pense que l'opposition, la contradiction que parfois on peut vous apporter dans toutes ces affaires de coopération, de solidarité internationale, c'est de dire, oui, tout ça c'est très bien, ça nous donne peut-être bonne conscience, mais en fait, à quoi ça sert à la collectivité? Quel intérêt on a à ça? Et est-ce que vous êtes sûr, mais vous avez déjà répondu, que tous les investissements humains, financiers qui sont faits dans ces projets, il y a bien le résultat escompté?
Alors, sur le résultat escompté, oui, la façon dont on travaille ici à Toulouse, je pense que c'est la bonne façon. C'est d'abord, j'insiste, on fait de la co-construction. On va sur le terrain, on vérifie sans arrêt. Mais on va sur le terrain aussi pour comprendre. Dernièrement, il y a je ne sais plus quelle ville qui m'a dit « Comment tu fais dans ta coopération ?» Parce que nous, on y est allé, on a reçu des pierres. Et je dis « Oui, mais est-ce que vous avez été d'abord travailler avec l'équivalent des maires de quartier, avec les présidents d'associations, avec les maires, les femmes, etc. »
Tous les relais sur place.
Et ils me disent « Non, nous, on est arrivés, on a donné de l'argent, etc. » Nous, on ne fait pas ça. Si c'est pour donner de l'argent, et pas savoir à quoi ça sert.
Ce qui devient, oui.
Et se dire après, comme certains citoyens me disent, oui, mais c'est bien beau de donner de l'argent. On ne donne pas de l'argent, on contrôle tout. Et je peux vous garantir, quand on fait le point avec la mairie de Saint-Louis, ça se passe d'ailleurs très très bien, on a un descriptif hyper précis de à quoi a servi la subvention qu'on a donnée. Sinon, on n'en donne pas. C'est pareil sur toutes les actions qu'on a faites, que ça soit au niveau des collectivités ou que ça soit au niveau de la solidarité. La solidarité, on passe uniquement par des associations qui sont présentes sur Toulouse. Si ce ne sont pas des associations toulousaines, on ne peut pas les aider. Donc ce sont des associations toulousaines. Et là aussi, quand on peut, parce que je ne me balade pas dans le monde entier, hein, j'ai autre chose à faire. Et puis l'argent du citoyen, c'est important. Donc on y va pour se dire, OK, on a donné des livres. C'est une opération qu'on vient de faire sur une petite ville qui s'appelle Kombolé au Sénégal. On a donné des livres, on a fait une action au niveau de la bibliothèque et de la médiathèque Cabanis. Est-ce que vraiment ces livres ont été utilisés pour avoir une bibliothèque ou est-ce qu'ils ont été revendus sur place? C'est une question qu'on peut se poser. Donc en fait, il faut avoir ce suivi. Et je pense aussi qu'à partir du moment où vous avez ce suivi, vous êtes bien apprécié du territoire avec lequel vous travaillez. Parce qu'ils ont l'impression que vous vous intéressez à eux. Vous ne vous contentez pas de donner un chèque et... Allez, hop, c'est fait.
C'est ce que je dis, se donner bonne conscience.
Voilà, donc nous, on ne travaille pas comme ça. Je pense que vous m'avez posé une deuxième question. Oui, à quoi ça sert aussi? Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les rues de Toulouse, même si honnêtement, c'est un peu un tonneau de Danaïde, on a plein de nouveaux migrants qui arrivent. Il y a beaucoup de citoyens qui râlent en disant « oui, mais c'est migrant, c'est inadmissible, ça, etc. » C'est vrai que Toulouse, c'est une terre qui a eu énormément de migrations. Vous n'avez qu'à aller de temps en temps à l'espace diversité et laïcité, vous verrez, on fait des expositions régulières sur toutes les migrations qui sont arrivées sur Toulouse. On les a digérées. Ils se sont
intégrés
assimilés, sans problème, on va dire.
Par exemple, les Espagnols, bien sûr.
Par exemple, les Espagnols, pour nous, à Toulouse. Maintenant, on était en situation économique favorable, où on avait besoin de main-d'œuvre.
Contexte totalement différent.
Contexte totalement différent.
Et de l'emploi, tout à fait.
Si les Allemands ont réussi à intégrer leurs millions d'émigrés et de les faire venir, parce que quand même ils ont été volontaires, c'est tout simplement qu'ils ont besoin de bras, on le sait. S'ils n'ont pas ces bras, d'ailleurs ils commencent à avoir des problèmes, l'industrie allemande ne fonctionne pas. Nous, ce n'est pas notre problème. On a des taux de fécondité, les Français sont très bons là-dessus, on a des taux de fécondité qui nous permettent d'avoir ce problème réglé. Donc, quand les migrants arrivent, pourquoi ils arrivent? Que ce soit chez nous ou ailleurs. parce qu'ils ne trouvent pas de quoi vivre correctement chez eux. Quand je dis vivre correctement chez eux, pour en parler quand même avec de très nombreuses personnes qui soient d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique, c'est l'accès à l'eau et c'est l'accès à la nourriture. Si vous ne leur donnez pas cette possibilité, ce n'est pas grand-chose quand même.
Les besoins les plus primaires.
C'est vraiment le besoin basique, comme on dit. S'ils ont l'accès à l'eau et s'ils ont l'accès à la nourriture, inévitablement, ils vont pouvoir scolariser des enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas accès à l'eau et que vous avez des mamans et des petites filles qui font des kilomètres dans la journée pour aller chercher un peu d'eau, quand il y a la possibilité d'en avoir, vous imaginez bien que les gamins ne sont pas scolarisés. Donc tout ça fait, c'est un cercle vertueux. Et à partir du moment où ils ont ça, mais ils ne vont pas venir chez nous. Est-ce que vous croyez qu'ils viennent chez nous avec plaisir pour mourir en Méditerranée, pour mourir sur les routes ou pour arriver chez nous où on n'en veut pas? Et on n'en veut pas parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Il faut être quand même conscient. Alors j'en profite pour préciser quelque chose. Quand vous voyez des migrants, parce qu'on m'interpelle de temps en temps là-dessus, oui, c'est vrai, il y a encore des tentes avec des enfants dans la rue. Mais premièrement, ça ne dépend pas de la mairie. Ça dépend de la préfecture. Donc il faut que la préfecture travaille d'abord pour arriver à recenser tous ces migrants, etc. Après, nous, on peut... passé. Si aujourd'hui la mairie n'avait rien fait et la préfecture n'avait rien fait, vous auriez à enjamber des corps de migrants dans toutes nos rues à Toulouse. Donc ne pensez pas qu'on ne fait rien en solidarité sur place à Toulouse. La solidarité internationale, elle est complémentaire de ce qu'on fait déjà et qu'on fera toujours dans Toulouse pour nos citoyens, pour nos Français et pour ces gens qui arrivent, parce que de toute façon, on ne peut pas les tuer.
Nous allons devoir terminer cette émission là-dessus, sur tous ces constats et puis ces accords de coopération en cours. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont
Oui, on est en train de réfléchir avec un accord en Amérique latine, je ne vous dis pas encore la ville. On est aussi en train de réfléchir sur Tunis, parce que vous savez que l'ambassadeur de Tunis en France est Olivier Poivre d'Arvor,
oui,
qui est très impliqué dans
Marathon
Toulouse,
des mots,
avec
ouais,
le Marathon des mots. Donc on est en train de réfléchir à Tunis, on est en train de réfléchir à d'autres villes, voilà.
On aura sans doute l'occasion d'en reparler à l'avenir sur Radio Présence. Quoi qu'il en soit, merci infiniment Nicole Miquel-Bellot d'être venue éclairer notre lanterne sur ce que font la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale. Les auditeurs de Métropole et vous ont pu constater tous les liens qui unissaient Toulouse à de nombreuses villes à travers le monde et à de nombreux pays. Du coup, je pense que beaucoup d'entre nous étaient loin de soupçonner toutes ces connexions. Moi le premier, ce qu'elles apportent aussi à notre territoire et inversement ce que nous apportons aux villes partenaires. Tout ça participe aussi, on ne l'a pas dit, au rayonnement international de la métropole toulousaine. Pour connaître tout le détail des accords, des partenariats, des projets en matière de coopération et de solidarité internationale, vous pouvez consulter le site de la mairie de Toulouse, www.toulouse.fr, à la catégorie La mairie, rubrique Europe internationale. Et puis je rappelle que vous pouvez aussi trouver des informations sur le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci encore de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.